Chapitre 44. Il me tardait d'être seul avec Pierrot. Son trouble, quand je l'avais questionné sur le sort de Marie, l'insolente tendresse avec laquelle il osait prononcer son nom, avait encore enraciné les sentiments d'exécration et de jalousie qui germèrent en mon cœur au moment où je le vis enlever, à travers l'incendie du fort Califé, celle que je pouvais à peine appeler mon épouse. Que m'importait, après cela, les reproches généreux qu'il avait adressés devant moi au sanguinaire Biassou, les soins qu'il avait pris de ma vie, et même cette empreinte extraordinaire qui marquait toutes ses paroles et toutes ses actions. Que m'importait ce mystère qui semblait l'envelopper, qui le faisait apparaître vivant à mes yeux quand je croyais avoir assisté à sa mort, qui me le montrait captif chez les Blancs quand je l'avais vu s'ensevelir dans la grande rivière, qui changeait l'esclave en altesse, le prisonnier en libérateur. De toutes ces choses incompréhensibles, la seule qui fut claire pour moi, c'était le rapt au dieu de Marie, un outrage à venger, un crime à punir. Ce qui s'était déjà passé d'étrange sous mes yeux suffisait à peine pour me faire suspendre mon jugement, et j'attendais avec impatience l'instant où je pourrais contraindre mon rival à s'expliquer. Ce moment vint enfin. Nous avions traversé les triples haies de noirs prosternés sur notre passage et s'écriant avec surprise « Miraculo, ya no está prisonero !» Miracle, il n'est plus prisonnier. J'ignore si c'est de moi ou de Pierrot qu'il voulait parler. Nous avions franchi les dernières limites du camp, nous avions perdu de vue, derrière les arbres et les rochers, les dernières vedettes de Biassou. Rasque, joyeux, nous devançait, puis revenait à nous. Pierrot marchait avec rapidité. Je l'arrêtai brusquement. « Écoute, lui dis-je, il est inutile d'aller plus loin. Les oreilles que tu craignais ne peuvent plus nous entendre. Parle, qu'as-tu fait de Marie ?» Une émotion concentrée faisait haleter ma voix. Il me regarda avec douceur. « Toujours, me répondit-il. « Oui, toujours » m'écriai-je furieux. « Toujours, je te ferai cette question jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à mon dernier soupir. Où est Marie ?» Rien ne peut donc dissiper tes doutes sur ma foi. Tu le sauras bientôt. « Bientôt, monstre !» répliquai-je. « C'est maintenant que je veux le savoir. Où est Marie ? Où est Marie ? Entends-tu ? Réponds, ou échange ta vie contre la mienne. Défends-toi. » « Je t'ai déjà dit, reprit-il avec tristesse, que cela ne se pouvait pas. Le torrent ne lutte pas contre sa source. Ma vie, que tu as sauvée trois fois, ne peut combattre contre ta vie. Je le voudrais d'ailleurs que la chose serait encore impossible. Nous n'avons qu'un poignard pour nous deux. » En parlant ainsi, il tira un poignard de sa ceinture et me le présenta. « Tiens, dit-il. » J'étais hors de moi. Je saisis le poignard et le fis briller sur sa poitrine. Il ne songeait pas à s'y soustraire. « Misérable, lui dis-je, ne me force point à un assassinat. Je te plonge cette lame dans le cœur si tu ne me dis pas où est ma femme à l'instant. » Il me répondit sans colère. « Tu es le maître. Mais je t'en prie à main jointe, laisse-moi encore une heure de vie et suis-moi. Tu doutes de celui qui te doit trois vies, de celui que tu nommais ton frère. Mais écoute, si dans une heure tu en doutes encore, tu seras libre de me tuer. Il sera toujours temps. Tu vois bien que je ne veux pas te résister. Je t'en conjure, au nom même de Maria. » Il ajouta péniblement, « De ta femme. Encore une heure, et si je te supplie ainsi, va, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. » Son accent avait une expression ineffable de persuasion et de douleur. Quelque chose sembla m'avertir qu'il disait peut-être vrai, que l'intérêt seul de sa vie ne suffirait pas pour donner à sa voix cette tendresse pénétrante, cette suppliante douceur, et qu'il plaidait pour plus que lui-même. Je cédai encore une fois à cet ascendant secret qu'il exerçait sur moi, et qu'en ce moment je rougissais de m'avouer. « Allons, dis-je, je t'accorde ce sursis d'une heure. je te suivrai. » Je voulus lui rendre le poignard. « Non, répondit-il, garde-le, tu te défies de moi. Mais viens, ne perdons pas de temps. » Chapitre 45. Il recommença à me conduire. Rask, qui pendant notre entretien avait fréquemment essayé de se remettre en marche, puis était revenu chaque fois vers nous, demandant en quelque sorte du regard pourquoi nous nous arrêtions, Rask reprit joyeusement sa route. Nous nous enfonçâmes dans une forêt vierge. Au bout d'une demi-heure environ, nous débouchâmes sur une jolie savane verte, arrosée d'une eau de roche et bordée par la lisière fraîche et profonde des grands arbres centenaires de la forêt. Une caverne dont une multitude de plantes grimpantes, la clématite, la liane, le jasmin, verdissaient le front grisâtre, s'ouvrait sur la savane. Rask allait aboyer, Pierrot le fit taire d'un signe, et, sans dire une parole, m'entraîna par la main dans la caverne. Une femme, le dos tourné à la lumière, était assise dans cette grotte, sur un tapis de sparterie. Au bruit de nos pas, elle se retourna. Mes amis, c'était Marie. Elle était vêtue d'une robe blanche, comme le jour de notre union, et portait encore dans ses cheveux la couronne de fleurs d'oranger, dernière parure virginale de la jeune épouse, que mes mains n'avaient pas détachée de son front. Elle m'aperçut, me reconnut, jeta un cri et tomba dans mes bras, mourante de joie et de surprise. J'étais éperdue. À ce cri, une vieille femme qui portait un enfant dans ses bras accourut d'une deuxième chambre pratiquée dans un enfoncement de la caverne. C'était la nourrice de Marie et le dernier enfant de mon malheureux oncle. Pierrot était allé chercher de l'eau à la source voisine. Il en jeta quelques gouttes sur le visage de Marie. Leur fraîcheur rappela la vie. Elle ouvrit les yeux. « Léopold, » dit-elle, « mon Léopold. »« Marie, » répondis-je. Et le reste de nos paroles s'acheva dans un baiser. « Pas devant moi, au moins !» s'écria une voix déchirante. Nous levâmes les yeux, c'était Pierrot. Il était là, assistant à nos caresses comme à un supplice. Son sein gonflé haletait, une sueur glacée tombait à grosses gouttes de son front. Tous ses membres tremblaient. Tout à coup, il cacha son visage de ses deux mains et s'enfuit hors de la grotte en répétant avec un accent terrible « Pas devant moi !» Marie se souleva de mes bras à demi et s'écria en le suivant des yeux « Grand Dieu, mon Léopold, notre amour paraît lui faire mal. Est-ce qu'il m'aimerait ?» Le cri de l'esclave m'avait prouvé qu'il était mon rival. L'exclamation de Marie me prouvait qu'il était aussi mon ami. « Marie, » répondis-je, et une félicité inouïe entra dans mon cœur en même temps qu'un mortel regret. « Marie, est-ce que tu l'ignorais ?»« Mais je l'ignore encore !» me dit-elle avec une chaste rougeur. « Comment ? Il m'aime ? Je ne m'en étais jamais aperçue. » Je la pressai sur mon cœur avec ivresse. « Je retrouve ma femme et mon amie, » m'écriai-je. « Que je suis heureux et que je suis coupable. J'avais douté de lui. » « Comment ? » reprit Marie étonnée. « De lui ? De Pierrot ? Oh oui, tu es bien coupable. Tu lui dois deux fois ma vie, et peut-être plus encore. » ajouta-t-elle en baissant les yeux. « Sans lui, le crocodile de la rivière m'aurait dévoré. Sans lui, les nègres, c'est Pierrot qui m'a arraché de leurs mains au moment où ils allaient sans doute me rejoindre à mon malheureux père. » Elle s'interrompit et pleura. « Et pourquoi, lui demandai-je, Pierrot ne t'a-t-il pas renvoyé au cap, à ton mari ?»« Il l'a tenté, » répondit-elle, « mais il ne l'a pu. » Obligé de se cacher également des noirs et des blancs, cela lui était fort difficile. Et puis, on ignorait ce que tu étais devenu. Quelques-uns disaient avoir vu tomber mort, mais Pierrot m'assurait que non, et j'étais bien certaine du contraire, car quelque chose m'en aurait averti. Et si tu étais mort, je serais morte aussi, en même temps. « Pierrot, lui dis-je, t'as donc amené ici ? » ?»« Oui, mon Léopold. » Cette grotte isolée est connue de lui seul. Il avait sauvé en même temps que moi tout ce qui restait de la famille, ma bonne nourrice et mon petit frère. Il nous y a cachés. Je t'assure qu'elle est bien commode. Et sans la guerre qui fouille tout le pays, maintenant que nous sommes ruinés, j'aimerais à l'habiter avec toi. Pierrot pourvoyait à tous nos besoins. Il venait souvent. Il avait une plume rouge sur la tête. Il me consolait, me parlait de toi, m'assurait que je te serais rendu. Cependant, ne l'ayant pas vu depuis 3 jours, je commençais à m'inquiéter lorsqu'il est revenu avec toi. Ce pauvre ami, il a donc été te chercher ?
Oui, lui répondis-je.
Mais comment se fait-il avec cela, reprit-elle, qu'il soit amoureux de moi ? En es-tu sûr ?
Sûr maintenant, lui dis-je.
C'est lui qui, sur le point de me poignarder, s'est laissé fléchir par la crainte de t'affliger. C'est lui qui te chantait ses chansons d'amour dans le pavillon de la rivière.
Vraiment ? Reprit Marie avec une naïve surprise. C'est ton rival ? Le méchant homme aux soucis est ce bon Pierrot ? Je ne puis croire cela. Il était avec moi si humble, si respectueux, plus que lorsqu'il était notre esclave. Il est vrai qu'il me regardait quelquefois d'un air singulier, mais ce n'était que de la tristesse, et je l'attribuais à mon malheur. Si tu savais avec quel dévouement passionné il m'entretenait de mon Léopold. Son amitié parlait de toi presque comme mon amour.
Ces explications de Marie m'enchantaient et me désolaient à la fois. Je me rappelais avec quelle cruauté j'avais traité ce généreux Pierrot, et je sentais toute la force de son reproche tendre et résigné. Ce n'est pas moi qui suis ingrat. En ce moment, Pierrot rentra. Sa physionomie était sombre et douloureuse. On aurait dit un condamné qui revient de la torture, mais qui en a triomphé. Il s'avança vers moi, à pas lents, et me dit d'une voix grave, en montrant le poignard que j'avais placé dans ma ceinture, « L'heure est écoulée. »«
L'heure ? Quelle heure ? » lui dis-je.
« Celle que tu m'avais accordée. Elle m'était nécessaire pour te conduire ici. Je t'ai supplié alors de me laisser la vie. Maintenant, je te conjure de me l'ôter. »
Les sentiments les plus doux du cœur, l'amour, l'amitié, la reconnaissance, s'unissaient en ce moment pour me déchirer. Je tombai aux pieds de l'esclave sans pouvoir dire un mot, en sanglotant amèrement. Il me releva avec précipitation. « Que fais-tu ? » me dit-il. « Je te rends l'hommage que je te dois. Je ne suis plus digne d'une amitié comme la tienne. Ta reconnaissance ne peut aller jusqu'à me pardonner mon ingratitude. »
Sa figure eut quelque temps encore une expression de rudesse. Il paraissait éprouver de violents combats. Il fit un pas vers moi et recula. Il ouvrit la bouche et se tut. Ce moment fut de courte durée. Il m'ouvrit ses bras en disant « Puis-je à présent t'appeler frère ?» Je ne lui répondis qu'en me jetant sur son cœur. Il ajouta, après une légère pause, « Tu es bon, mais le malheur t'avait rendu injuste. » « J'ai retrouvé mon frère, lui dis-je. Je ne suis plus malheureux, mais je suis bien coupable. »«
Coupable, frère, je l'ai été aussi, et plus que toi. Tu n'es plus malheureux. Moi, je le serai toujours. »
Chapitre 46. La joie que les premiers transports de l'amitié avaient fait briller sur son visage s'évanouit. Ses traits prirent une expression de tristesse singulière et énergique. « Écoute, me dit-il d'un ton froid, mon père était roi au pays de Kakongo. Il rendait la justice à ses sujets devant sa porte, et à chaque jugement qu'il portait, il buvait, suivant l'usage des rois, une pleine coupe de vin de palmier. Nous vivions heureux et puissants. Des Européens vinrent, ils me donnèrent ces connaissances futiles qui t'ont frappé. Leur chef était un capitaine espagnol. Il promit à mon père des pays plus vastes que les siens
et des femmes blanches, mon père le suivit avec sa famille. Frères, ils nous vendirent. » La poitrine du noir se gonfla, ses yeux étincelaient. Il brisa machinalement un jeune néflier qui se trouvait près de lui, puis il continua, sans paraître s'adresser à moi. Le maître du pays Kakongo eut un maître, et son fils se courba en esclave sur les sillons de Santo Domingo. On sépara le jeune lion de son vieux père pour les dompter plus aisément. On enleva la jeune épouse à son époux pour en tirer plus de profit en les unissant à d'autres. Les petits-enfants cherchèrent la mère qui les avait nourris, le père qui les baignait dans les torrents. Ils ne trouvèrent que des tyrans barbares et couchèrent parmi les chiens. Il se tut. Ses lèvres remuaient sans qu'il parlât. Son regard était fixe et égaré. Il me saisit le bras brusquement. « Frère, entends-tu? J'ai été vendu à différents maîtres, comme une pièce de bétail. Tu te souviens du supplice d'Ogé? Ce jour-là, j'ai revu mon père. Écoute, c'était sur la roue. » Je frémis, il ajouta. « Ma femme a été prostituée à des blancs. Écoute, frère, elle est morte et m'a demandé vengeance. Te le dirai-je ? » Continua-t-il en hésitant et en baissant les yeux. « J'ai été coupable. J'en ai aimé une autre, mais passons. Tous les miens me pressaient de les délivrer et de me venger. Rask m'apportait leur message. Je ne pouvais les satisfaire. J'étais moi-même dans les prisons de ton oncle. Le jour où tu obtins ma grâce, je partis pour arracher mes enfants des mains d'un maître féroce. J'arrivais. Frère, le dernier des petits-fils du roi de Kakongo venait d'expirer sous les coups d'un blanc. Les autres l'avaient précédé. » Il s'interrompit et me demanda froidement. « Frère, qu'aurais-tu fait ?» Ce déplorable récit m'avait glacé d'horreur. Je répondis à sa question par un geste menaçant. Il me comprit et se mit à sourire avec amertume. Il poursuivit. Les esclaves se révoltèrent contre leur maître et le punirent du meurtre de mes enfants. Ils m'élurent leur chef. Tu sais les malheurs qu'entraîna cette rébellion. J'appris que ceux de ton oncle se préparaient à suivre le même exemple. J'arrivais dans la cule la nuit même de l'insurrection. Tu étais absent. Ton oncle venait d'être poignardé dans son lit. Les Noirs incendiaient déjà les plantations. Ne pouvant calmer leur fureur, parce qu'ils croyaient me venger en brûlant les propriétés de ton oncle, je dus sauver ce qui restait de ta famille. Je pénétrai dans le fort par l'issue que j'y avais pratiquée. Je confiai la nourrice de ta femme à un noir fidèle. J'eus plus de peine à sauver ta Maria. Elle avait couru vers la partie embrasée du fort pour en tirer le plus jeune de ses frères, seul échappé au massacre. Des Noirs l'entouraient, ils allaient la tuer. Je me présentai et leur ordonnai de me laisser me venger moi-même. Ils se retirèrent. Je pris ta femme dans mes bras, je confiai l'enfant à Rask et je les déposai tous deux dans cette caverne dont je connais seule l'existence et l'accès. Frère, voilà mon crime. » De plus en plus pénétré de remords et de reconnaissance, je voulus me jeter encore une fois aux pieds de Pierrot. Il m'arrêta d'un air offensé. « Allons, viens, » dit-il un moment après en me prenant par la main. « Emmène ta femme et partons tous les cinq. » Je lui demandai avec surprise où il voulait nous conduire. « Au camp des Blancs, » me répondit-il. « Cette retraite n'est plus sûre. Demain, à la pointe du jour, les Blancs doivent attaquer le camp de Biassou. La forêt sera certainement incendiée. Et puis, nous n'avons pas un moment à perdre. 10 têtes, répondent de la mienne. Nous pouvons nous hâter. Car tu es libre. Nous le devons, car je ne le suis pas. » Ces paroles accrurent ma surprise. Je lui en demandai l'explication. « N'as-tu pas entendu raconter que Bug Jargal était prisonnier ? » dit-il avec impatience. « Oui, mais qu'as-tu de commun avec ce Bug Jargal ?» Il parut à son tour étonné et répondit gravement « Je suis ce Bug Jargal. » Chapitre 47. J'étais habitué, pour ainsi dire, à la surprise avec cet homme. ce n'était pas sans étonnement que je venais de voir, un instant auparavant, l'esclave Pierrot se transformer en roi africain. Mon admiration était au comble d'avoir maintenant à reconnaître en lui le redoutable et magnanime Buck Jargal, chef des révoltés du Morne Rouge. Je comprenais enfin d'où venaient les respects que rendaient tous les rebelles, et même Biassou, au chef Buck Jargal, au roi de Kakongo. Il ne parut pas s'apercevoir de l'impression qu'avaient produite sur moi ces dernières paroles. « L'on m'avait dit, reprit-il, que tu étais de ton côté prisonnier au camp de Biassou. J'étais venu pour te délivrer. » Pourquoi me disais-tu donc tout à l'heure que tu n'étais pas libre ? Il me regarda comme cherchant à deviner ce qui amenait cette question toute naturelle. « Écoute, me dit-il, ce matin, j'étais prisonnier parmi les tiens. J'entendis annoncer dans le camp que Biassou avait déclaré son intention de faire mourir, avant le coucher du soleil, un jeune captif nommé Léopold d'Auvernay. On renforça les gardes autour de moi. J'appris que mon exécution suivrait la tienne, et qu'en cas d'évasion, 10 de mes camarades répondraient de moi. Tu vois que je suis pressé. » Je le retins encore. « Tu t'es donc échappé ? » lui dis-je. « Et comment serais-je ici ? Ne fallait-il pas te sauver ? Ne te dois-je pas la vie ? Allons, suis-moi maintenant. Nous sommes à 1 heure de marche du camp des Blancs comme du camp de Biassou. Vois, l'ombre de ces cocotiers s'allonge et leur tête ronde paraît sur l'herbe comme l'œuf énorme du condor. Dans 3 heures, le soleil sera couché. Viens, frère, le temps presse. » Dans 3 heures, le soleil sera couché. Ces paroles si simples me glacèrent comme une apparition funèbre. Elles me rappelèrent la promesse fatale que j'avais faite à Biassou. Hélas, en revoyant Marie, je n'avais plus pensé à notre séparation éternelle et prochaine. Je n'avais été que ravie et enivrée. Tant d'émotions m'avaient enlevé la mémoire, et j'avais oublié ma mort dans mon bonheur. Le mot de mon ami me rejeta violemment dans mon infortune. Dans 3 heures, le soleil sera couché. Il fallait une bonne heure pour me rendre au camp de Biassou. Mon devoir était impérieusement prescrit. Le brigand avait ma parole, et il valait mieux encore mourir que de donner à ce barbare le droit de mépriser la seule chose à laquelle il parut se fier encore, l'honneur d'un Français. L'alternative était terrible. Je choisis ce que je devais choisir. Mais je l'avouerai, messieurs, j'hésitais un moment. Étais-je coupable ? Chapitre 48. Enfin, poussant un soupir, je pris d'une main la main de Buck Jargal, de l'autre celle de ma pauvre Marie, qui observait avec anxiété le nuage sinistre répandu sur mes traits. « Buck Jargal, dis-je avec effort, je te confie le seul être au monde que j'aime plus que toi, Marie. Retournez au camp sans moi, car je ne puis vous suivre. »« Mon Dieu !» s'écria Marie, respirant à peine. « Quelque nouveau malheur !» Buck Jargal avait tressailli. Un étonnement douloureux se peignait dans ses yeux. « Frère, que dis-tu ? » La terreur qui oppressait Marie à la seule idée d'un malheur que sa trop prévoyante tendresse semblait deviner me faisait une loi de lui en cacher la réalité et de lui épargner des adieux si déchirants. Je me penchai à l'oreille de Buck Jargal et lui dis à voix basse « Je suis captif. J'ai juré à Biassou de revenir me mettre en son pouvoir 2 heures avant la fin du jour. J'ai promis de mourir. » Il bondit de fureur, sa voix devint éclatante. « Le monstre ! Voilà pourquoi il a voulu t'entretenir secrètement. C'était pour t'arracher cette promesse. J'aurais dû me défier de ce misérable Biassou. Comment n'ai-je pas prévu quelque perfidie ? Ce n'est pas un noir, c'est un mulâtre. » « Qu'est-ce donc ? Quelle perfidie ? Quelle promesse ? » dit Marie épouvantée. « Qui est ce Biassou ? Tais-toi, tais-toi » répétai-je bas à Buck Jargal. « N'alarmons pas Marie. »« Bien, me dit-il d'un ton sombre, Mais comment as-tu pu consentir à cette promesse? Pourquoi l'as-tu donnée? Je te croyais ingrat, je croyais mari perdu pour moi, que m'importait la vie? Mais une promesse de bouche ne peut t'engager avec ce brigand. J'ai donné ma parole d'honneur.
Il parut chercher à comprendre ce que je voulais dire.
Ta parole d'honneur, qu'est-ce que cela? Vous n'avez pas bu à la même coupe. Vous n'avez pas rompu ensemble un anneau ou une branche d'érable à fleurs rouges?
Non.
Eh bien, que nous dis-tu donc? Qu'est-ce qui peut t'engager?
Mon honneur, répondis-je.
Je ne sais pas ce que cela signifie. Rien ne te lie avec Biassou. Viens avec nous.
Je ne puis, frère, j'ai promis.
Non, tu n'as pas promis, s'écria-t-il avec emportement. Puis, élevant la voix, « Sœur, joignez-vous à moi, empêchez votre mari de nous quitter. Il veut retourner au camp des nègres d'où je l'ai tiré, sous prétexte qu'il a promis sa mort à leur chef, à Biassou. »« Qu'as-tu fait ? »
m'écriai-je. Il était trop tard pour prévenir l'effet de ce mouvement généreux qui lui faisait implorer pour la vie de son rival l'aide de celle qu'il aimait. Marie s'était jetée dans mes bras avec un cri de désespoir. Ses mains jointes autour de mon cou la suspendaient sur mon cœur, car elle était sans force et presque sans haleine.
« Oh ! » murmurait-elle péniblement. « Que dit-il là, mon Léopold ? N'est-il pas vrai qu'il me trompe et que ce n'est pas au moment qui vient de nous réunir que tu veux me quitter et me quitter pour mourir ? Réponds-moi vite ou je meurs. Tu n'as pas le droit de donner ta vie parce que tu ne dois pas donner la mienne. » Tu ne voudrais pas te séparer de moi pour ne me revoir jamais.
Marie, repris-je, ne le crois pas. Je vais te quitter, en effet, il le faut, mais nous nous reverrons ailleurs.
Ailleurs ? Reprit-elle avec effroi. Ailleurs ? Où ?
Dans le ciel, répondis-je, ne pouvant mentir à cet ange. Elle s'évanouit encore une fois, mais alors c'était de douleur. L'heure pressait. Ma résolution était prise. Je la déposai entre les bras de Buck Jargal, dont les yeux étaient pleins de larmes.
« Rien ne peut donc te retenir, » me dit-il. « Je n'ajouterai rien à ce que tu vois. Comment peux-tu résister à Maria? Pour une seule des paroles qu'elle t'a dites, je lui aurais sacrifié un monde. Et toi, tu ne veux pas lui sacrifier ta mort ?»«
L'honneur, » répondis-je. « Adieu, Buck Jargal. » « Adieu, frère, je te la lègue. » Il me prit la main, il était pensif et semblait à peine m'entendre. « Frère, il y a au camp des Blancs un de tes parents, je lui remettrai Maria. Quant à moi, je ne puis accepter ton legs. » Il me montra un pic dont le sommet dominait toute la contrée environnante. « Vois ce rocher, quand le signe de ta mort y apparaîtra, le bruit de la mienne ne tardera pas à se faire entendre. Adieu. »
Sans m'arrêter au sens inconnu de ses dernières paroles, je l'embrassai. Je déposai un baiser sur le front pâle de Marie, que les soins de sa nourrice commençaient à ranimer. Et je m'enfuis précipitamment, de peur que son premier regard, sa première plainte, ne m'enlevasse toute ma force. Chapitre 49. Je m'enfuis. Je me plongeai dans la profonde forêt en suivant la trace que nous y avions laissée, sans même oser jeter un coup d'œil derrière moi. Comme pour étourdir les pensées qui m'obsédaient, je courus sans relâche à travers les taillis, les savanes et les collines, jusqu'à ce qu'enfin, à la crête d'une roche, le camp de Biassou, avec ses lignes de cabrouées, ses rangées d'ajoupas et sa fourmilière de noirs, apparut sous mes yeux. Là, je m'arrêtai. Je touchais au terme de ma course et de mon existence. La fatigue et l'émotion rompirent mes forces. Je m'appuyai contre un arbre pour ne pas tomber et je laissai errer mes yeux sur le tableau qui se développait à mes pieds dans la fatale savane. Jusqu'à ce moment, je croyais avoir goûté toutes les coupes d'amertume et de fiel. je ne connaissais pas le plus cruel de tous les malheurs. C'était d'être contraint, par une force morale plus puissante que celle des événements, à renoncer volontairement, heureux, au bonheur vivant, à la vie. Quelques heures auparavant, que m'importait d'être au monde, je ne vivais pas. L'extrême désespoir est une espèce de mort qui fait désirer la véritable. Mais j'avais été tirée de ce désespoir. Marie m'avait été rendue. Ma félicité morte avait été, pour ainsi dire, ressuscitée. Mon passé était redevenu mon avenir, et tous mes rêves éclipsés avaient reparu plus éblouissants que jamais. La vie, enfin, une vie de jeunesse, d'amour et d'enchantement, s'était de nouveau déployée, radieuse, devant moi, dans un immense horizon. Cette vie, je pouvais la recommencer. Tout m'y invitait en moi et hors de moi. Nul obstacle matériel, nulle entrave visible. J'étais libre, j'étais heureux. Et pourtant, il fallait mourir. Je n'avais fait qu'un pas dans cet Éden. Et je ne sais quel devoir, qui n'était pas même éclatant, me forçait à reculer vers un supplice. La mort est peu de chose pour une âme flétrie et déjà glacée par l'adversité. Mais que sa main est poignante, qu'elle semble froide, quand elle tombe sur un cœur épanoui et comme réchauffé par les joies de l'existence. Je l'éprouvais. J'étais sortie un moment du sépulcre. J'avais été enivrée dans ce court moment de ce qu'il y a de plus céleste sur la terre, l'amour, le dévouement, la liberté. Et maintenant, il fallait brusquement redescendre au tombeau. Chapitre 50. Quand l'affaissement du regret fut passé, une sorte de rage s'empara de moi. Je m'enfonçai à grands pas dans la vallée, je sentais le besoin d'abréger. Je me présentai aux avant-postes des nègres. Ils parurent surpris et refusaient de m'admettre. Chose bizarre, je fus contraint presque de les prier. Deux d'entre eux enfin s'emparèrent de moi et se chargèrent de me conduire à Biassou. J'entrai dans la grotte de ce chef. Il était occupé à faire jouer les ressorts de quelques instruments de torture dont il était entouré. Au bruit que firent ses gardes en m'introduisant, il tourna la tête. Ma présence ne parut pas l'étonner. « Vois-tu ? » dit-il en m'étalant l'appareil horrible qui l'environnait. Je demeurai calme. Je connaissais la cruauté du héros de l'humanité et j'étais déterminée à tout endurer sans pâlir. « N'est-ce pas ? » reprit-il en ricanant. « N'est-ce pas que Léo Gris a été bien heureux de n'être que pendu ?» Je le regardai sans répondre, avec un froid dédain. « Faites avertir le chapelain, » dit-il alors à un aide de camp. Nous restâmes un moment tous deux silencieux, nous regardant en face. Je l'observais, il m'épiait. En ce moment, Rigaud entra. Il paraissait agité et parla bas au généralissime. « Qu'on rassemble tous les chefs de mon armée, » dit tranquillement Biassou. Un quart d'heure après, tous les chefs, avec leurs costumes diversement bizarres, étaient réunis devant la grotte. Biassou se leva. « Écoutez, amigos, les Blancs comptent nous attaquer ici demain, au point du jour. La position est mauvaise, il faut la quitter. Mettons-nous tous en marche au coucher du soleil et gagnons la frontière espagnole. Macaya, vous formerez l'avant-garde avec vos noirs marrons. Padre Jean, vous enclouerez les pièces prises à l'artillerie de Pralotto. Elle ne pourrait nous suivre dans les mornes. Les braves de la Croix des Bouquets s'ébranleront après Macaya. Toussaint suivra avec les noirs de Léogane et du Trou. Si les griots et les griottes font le moindre bruit, j'en charge le bourreau de l'armée. Le lieutenant-colonel Clou distribuera les fusils anglais débarqués au cap Cabron et conduira les sans-mêlés, ci-devant libres, par les sentiers de la Vista. On égorgera les prisonniers, s'il en reste. On mâchera les balles. On empoisonnera les flèches. Il faudra jeter 3 tonnes d'arsenic dans la source où l'on puise l'eau du camp. Les coloniaux prendront cela pour du sucre et boiront sans défiance. Les troupes du Limbé, du Dondon et de la Cule marcheront après Clou et Toussaint.
obstruait avec des rochers toutes les avenues de la savane, carabinait tous les chemins, incendiait les forêts. Rigaud, vous resterez près de nous. Candy, vous rassemblerez ma garde autour de moi. Les noirs du Morne Rouge formeront l'arrière-garde et n'évacueront la savane qu'au soleil levant. » Il se pencha vers Rigaud et dit à voix basse, « Ce sont les noirs de Buck Jargal. S'ils pouvaient être écrasés ici, muerta la tropa, muerto el jefe. » Morte la bande, mort le chef. « Allez, Hernanos, » reprit-il en se redressant. « Candy vous portera le mot d'ordre. » Les chefs se retirèrent. « Général, » dit Rigaud, « il faudrait expédier la dépêche de Jean-François. Nous sommes mal dans nos affaires. Elle pourrait arrêter les Blancs. » Biassou la tira précipitamment de sa poche. « Vous m'y faites penser, mais il y a tant de fautes de grammaire, comme ils disent, qu'ils en riront. » Il me présenta le papier. « Écoute, veux-tu sauver ta vie ? Ma bonté le demande encore une fois à ton obstination. Aide-moi à refaire cette lettre. » Je te dicterai mes idées, tu écriras cela en style blanc. » Je fis un signe de tête négatif. Il parut impatienté. « Est-ce non ? » me dit-il. « Non, » répondis-je. Il insista. « Réfléchis bien. » Et son regard semblait appeler le mien sur l'attirail de bourreau avec lequel il jouait. « C'est parce que j'ai réfléchi, » repris-je, « que je refuse. » Tu me parais craindre pour toi et les tiens. Tu comptes sur ta lettre à l'Assemblée pour retarder la marche et la vengeance des Blancs. Je ne veux pas d'une vie qui servirait peut-être à sauver la tienne. Fais commencer mon supplice. « Ha ha, muchacho !» répliqua Biassou en poussant du pied les instruments de torture. « Il me semble que tu te familiarises avec cela. J'en suis fâché, mais je n'ai pas le temps de t'en faire faire l'essai. Cette position est dangereuse. » Il faut que j'en sorte au plus vite. Ah, tu refuses de me servir de secrétaire. Aussi bien, tu as raison, car je ne t'en aurais pas moins fait mourir après. On ne saurait vivre avec un secret de Biassou. Et puis, mon cher, j'avais promis ta mort à monsieur le chapelain. Il se tourna vers l'Obi qui venait d'entrer. Bon père, votre escouade est-elle prête ? Celui-ci fit un signe affirmatif. « Avez-vous pris pour la composer des Noirs du Morne Rouge ? Ce sont les seuls de l'armée qui ne soient point encore forcés de s'occuper des apprêts du départ. » L'Obi répondit oui par un second signe. Biassou alors me montra du doigt le grand drapeau noir que j'avais déjà remarqué et qui figurait dans un coin de la grotte. « Voici qui doit avertir les tiens du moment où ils pourront donner ton épaulette à ton lieutenant. Tu sens que dans cet instant-là, je dois déjà être en marche. À propos, tu viens de te promener. Comment as-tu trouvé les environs ? J'y remarquai, répondis-je froidement, assez d'arbres pour y pendre toi et toute ta bande. Eh bien, répliqua-t-il avec un ricanement forcé, il est un endroit que tu n'as sans doute pas vu et avec lequel le bon père te fera faire connaissance. Adieu, jeune capitaine. Bonsoir à Léogris. Il me salua avec ce rire qui me rappelait le bruit du serpent à sonnette, fit un geste, me tourna le dos, et les nègres m'entraînèrent. L'Obi voilé nous accompagnait, son chapelet à la main. Chapitre 51. Je marchais au milieu d'eux sans faire de résistance. Il est vrai qu'elle eût été inutile. Nous montâmes sur la croupe d'un mont situé à l'ouest de la savane, où nous nous reposâmes un instant. Là, je jetai un dernier regard sur ce soleil couchant qui ne devait plus se lever pour moi. Mes guides se levèrent, je les suivis. Nous descendîmes dans une petite vallée qui m'eût enchantée dans un tout autre instant. Un torrent la traversait dans sa largeur et communiquait au sol une humidité féconde. Ce torrent se jetait à l'extrémité du vallon dans un de ces lacs bleus dont abonde l'intérieur des mornes à Saint-Domingue. Que de fois, dans les temps plus heureux, je m'étais assis pour rêver sur le bord de ces beaux lacs à l'heure du crépuscule, quand leur azur se change en une nappe d'argent où le reflet des premières étoiles du soir sème des paillettes d'or. Cette heure allait bientôt venir, mais il fallait passer. Que cette vallée me sembla belle! On y voyait des platanes à fleurs d'érable, d'une force et d'une hauteur prodigieuses. Des bouquets touffus de mauritia, sorte de palmier qui exclut toute autre végétation sous son ombrage. Des dattiers, des magnolias avec leurs larges calices, de grands catalpas montrant leurs feuilles polies et découpées parmi les grappes d'or des faux ébéniers. L'audier du Canada y mêlait ses fleurs, d'un jaune pâle aux auréoles bleues, dont se charge cette espèce de chèvrefeuille sauvage que les nègres nomment koali. Des rideaux verdoyants de lianes dérobaient à la vue les flancs bruns des rochers voisins. Il s'élevait de tous les points de ce sol vierge un parfum primitif, comme celui que devait respirer le premier homme sur les premières roses de l'Éden. Nous marchions cependant le long d'un sentier tracé sur le bord du torrent. Je fus surpris de voir ce sentier aboutir brusquement au pied d'un roc à pic, au bas duquel je remarquai une ouverture en forme d'arche d'où s'échappait le torrent. Un bruit sourd, un vent impétueux sortait de cette arche naturelle. Les nègres prirent à gauche et nous gravîmes le roc en suivant un chemin tortueux et inégal qui semblait y avoir été creusé par les eaux d'un torrent desséché depuis longtemps. Une voûte se présenta, à demi bouchée par les ronces, les houx et les épines sauvages qui y croissaient. Un bruit, pareil à celui de l'arche de la vallée, se faisait entendre sous cette voûte. Les noirs m'y entraînèrent. Au moment où je fis le premier pas dans ce souterrain, Lobi s'approcha de moi et me dit d'une voix étrange « Voici ce que j'ai à te prédire maintenant. Un de nous deux seulement sortira de cette voûte et repassera par ce chemin. » Je dédaignai de répondre, nous avançâmes dans l'obscurité. Le bruit devenait de plus en plus fort. Nous ne nous entendions plus marcher. Je jugeai qu'il devait être produit par une chute d'eau. Je ne me trompais pas. Après 10 minutes de marche dans les ténèbres, nous arrivâmes sur une espèce de plateforme intérieure formée par la nature dans le centre de la montagne. La plus grande partie de cette plateforme demi-circulaire était inondée par le torrent qui jaillissait des veines du mont avec un bruit épouvantable. Au-dessus de cette salle souterraine, la voûte formait une sorte de dôme tapissé de lierre d'une couleur jaunâtre. Cette voûte était traversée presque dans toute sa largeur par une crevasse à travers laquelle le jour pénétrait et dont le bord était couronné d'arbustes verts dorés en ce moment des rayons du soleil. À l'extrémité nord de la plateforme, le torrent se perdait avec fracas dans un gouffre au fond duquel semblait flotter, sans pouvoir y pénétrer, la vague lueur qui descendait de la crevasse. Sur l'abîme se penchait un vieil arbre dont les plus hautes branches se mêlaient à l'écume de la cascade et dont la souche noueuse perçait le roc, un ou deux pieds au-dessous du bord. Cet arbre, baignant ainsi à la fois dans le torrent sa tête et sa racine, qui se projetait sur le gouffre comme un bras décharné, était si dépouillé de verdure qu'on en pouvait reconnaître l'espèce. Il offrait un phénomène singulier. L'humidité qui imprégnait ses racines l'empêchait seule de mourir, tandis que la violence de la cataracte lui arrachait successivement ses branches nouvelles et le forçait de conserver éternellement les mêmes rameaux.